Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons voir sur une personnalité de la Bible. C'est la mère de Samuel. Elle s'appelle Anne. Il paraît que c'est la fête de mère aujourd'hui. Le monde, il fête la fête de mère. La fête de mère est célébrée aujourd'hui en France et dans de nombreux pays, nombreux autres pays dans le monde. Dans notre église aussi, nous avons parfois appelé les mères à venir à l'avant et nous leur avions offert des roses. Les anciens se souviennent bien. Bien. En réfléchissant davantage sur le sujet, nous nous étions éloignés de cette pratique. Les mères, comme les pères, doivent être honorées. Il n'y a aucun doute là-dessus. La parole de Dieu nous ordonne d'honorer nos pères et nos mères. Mais parfois, nous célébrons certaines choses parce que c'est l'usage de la tradition. La Bible ne nous dit pas si nous devions ou non célébrer la fête des mères. Mais la célébration elle-même semble avoir son origine dans des cultures païennes, grecques et romaines, où ils célébraient certaines de leurs déesses. La Bible ne dit jamais que chaque femme doit être une mère un jour. Cependant, il dit que chaque femme qui a été bénie avec la maternité devrait être traitée avec le plus grand respect et la responsabilité. Les femmes jouent un rôle unique dans la vie de leurs enfants. Nous trouvons beaucoup de mères importantes dans la Bible. Ève, la mère de l'humanité. Sarah, qui était âgée et stérile, et qui est devenue la mère d'Isaac, le fils promis à Abraham. Nous trouvons aussi Rebecca, Léa, Rachel, et aussi Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Elle était assez âgée pour être mère, mais le Seigneur lui a donné l'occasion de concevoir et de donner naissance au précurseur de Jésus-Christ. Et nous connaissons la jeune fille, Marie, qui se soumit entièrement à la volonté de Dieu et est devenue la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous trouvons aussi Jochebed dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, la mère de Moïse, qui a sauvé la vie de son fils et a même réussi à élever pendant qu'il était sous la responsabilité de la fille de Pharaon. Dieu a utilisé Jochebed pour sauver la vie de Moïse. Elle a sacrifié sa vie pour ses enfants. Jochebed a eu le courage de sauver son enfant. Dieu a permis Jochebed d'élever 3 enfants qui ont fait impression sur le monde spirituel. Dieu a donné à Jochebed un désir ardent de voir ses enfants vivre pour Dieu. Je parle bien sûr de Moïse, Aaron et de Myriam. La mère de Sem, Cam et Japheth, qui obéissaient à leur père Noé en construisant l'arche qui va les sauver du déluge à venir. On peut imaginer le rôle qu'elle aurait eu au sein de sa famille. La Bible ne nous donne pas son nom. Anne, la mère de Samuel, elle était stérile, mais comme elle le pouvait au Seigneur, elle était stérile, mais priait comme elle le pouvait au Seigneur pour un fils. Et le Seigneur lui a donné un fils merveilleux qui était un juge et un prophète pour la nation d'Israël. La mère de Samson, qui a été laissée sans nom aussi dans la Bible, elle a eu la vision d'un ange qui lui a dit qu'elle était sur le point de concevoir l'homme le plus fort qui ait jamais vécu sur la planète. Elle a accompli tous les commandements de l'ange et a donné naissance à l'homme le plus physiquement puissant de l'histoire de l'humanité. Napoléon, élu empereur de France, disait que la France est la bonne mère et l'aura de bons fils. Que la France est de bonne mère. Elle aura de bons fils. Vous savez, le célèbre évangéliste Neil Murray a déclaré ainsi, « Tout ce que j'ai accompli dans la vie, je le dois à ma mère. Tout ce que j'ai accompli dans ma vie, je dois à ma mère. » Voici un proverbe sud-africain, « La main qui berce le berceau règne sur la nation et son destin. » La main qui berce le berceau règne sur la nation et son destin. C'est combien c'est vrai, le rôle des mères dans nos vies. Maintenant, nous allons focaliser un peu sur cette femme, Anne, la mère de Samuel. Nous allons tourner notre Bible dans le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, chapitre 1. Contrairement au Nouveau Testament, l'Ancien Testament ne mentionne pas le nom de beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament, mais on ne trouve pas leur nom. Et le nom de Anne n'est mentionné que dans les deux premiers chapitres de ce livre, de ce premier livre de Samuel. Et nulle part ailleurs. On parle de Sarah ailleurs, hein, dans le Nouveau Testament. Mais par contre, le nom de Anne, on ne trouve nulle part ailleurs. Son nom signifie la grâce. Au début, nous trouvons Anne comme une femme triste. Elle n'était pas heureuse de la situation dans laquelle elle devait vivre. Elle a dû partager son mari avec une autre femme appelée Peninnah. Probablement son mari Elkanah a été forcé dans cette situation de polygamie en raison du fait que Anne était stérile et n'avait pas eu d'enfants. Ajouté à tout cela, Peninnah, la deuxième épouse de son mari, Elkanah, l'a harcelée. Nous nous souvenons de la situation de Sarah avec sa servante égyptienne Agar. Anne avait l'amour de son mari, bien sûr, mais était amère dans son âme parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Pour comprendre sa situation, nous devrons probablement comprendre le contexte culturel dans lequel elle a vécu. Dans l'ancien Proche-Orient, le seul grand épanouissement d'une femme était alors dans sa capacité à donner des fils à son mari. La période où se déroule cette histoire est une période très sombre en Israël. Si vous regardez le dernier verset du livre de Juges, le livre se termine ainsi. Je vais lire pour vous. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'était l'état d'Israël dans l'époque où Anne se trouvait. Et chaque année, cet homme montait de sa ville, Elkanah, je lis de 1 Samuel 1, verset 3, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Vous gardez en mémoire cette verset. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Je lis de 1 Samuel 12 à 17, mais on ne va pas lire entièrement. Je vous lis le premier verset et le dernier verset, 12 et 17. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un tel très grand péché parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Ça, c'était l'état de le sacrificateur de Dieu dans le temple de Dieu. Et quand on dit que l'état d'Israël était très sombre, très triste, parce que chacun faisait ce qu'il plaît à ses yeux, à ses propres yeux. Même au milieu de chaos et de la confusion spirituelle dans la nation, cette famille semble être obéissante en marchant sur le chemin de la justice. Dieu a toujours une réserve de son peuple qui lui fait confiance et qui l'obéit. Peu importe où et quand nous vivons. Comme il déclare à Élie qu'il avait une réserve de 7000 prophètes, même dans cette époque où nous vivons, ça peut, les choses peuvent nous sembler très sombres, mais Dieu, il a toujours une réserve de son peuple. Il y a toujours des adorateurs de Dieu. Il y a toujours des serviteurs de Dieu. Donc, nous ne devrions pas être découragés. Maintenant, nous allons voir sur l'âne, le problème de l'âne. Nous allons lire notre passage dans 1 Samuel, chapitre 1, le premier 8 versets. Il y avait un homme de Ramathaim, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Soup Ephrasien. Il avait deux femmes, donc l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière, alors qu'elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des fils ?» Nous avons vu le problème d'Anne qui était stérile. Mais si nous avons lu attentivement le passage, nous voyons dans le verset 5 et 6 que c'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. Et personne d'autre. C'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. Le mari d'Anne donnait une double portion pour le sacrifice. C'est-à-dire après le sacrifice. Cela ne pouvait pas aider Anne dans son malheur. Même si elle recevait la double portion, elle recevait l'amour de son mari, mais cela ne pouvait pas aider Anne dans son malheur, parce que l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. Ou bien Pénina, sa rivale, lui prodiguait des mortifications, et cela portait à s'irriter, mais encore, le fait est que l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'était sa situation. Quand Dieu ferme la porte pour nous, qui pourra l'ouvrir? Nous avons vu que l'Éternel a rendu Anne stérile. Quand Dieu ferme la porte pour nous, qui pourra l'ouvrir? Mais parfois, on peut être découragé, on peut perdre notre emploi, on peut avoir une perte de choses. Ça nous semble que Dieu, il ferme la porte sur notre visage. Mais quand Dieu ferme la porte, qui peut l'ouvrir? Est-ce qu'un homme peut interroger Dieu, pourquoi tu fais ceci et cela? Ne peut-on jamais comprendre ses manières, ses timings? Dans ce que nous lisons d'Anne, il n'y a rien de négatif chez elle. Sa rivale, Pénina, lui fait du mal, mais Anne n'a jamais prononcé un mot. Elle était comblée, Pénina. Mais Anne n'a jamais prononcer un mot. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Romains 9, 20-21. bien souvent notre vision des choses est très limitée. Que vous compreniez ou non ce que Dieu fait dans votre vie, il est toujours préférable d'attendre sur lui. Notre Dieu est un grand tisserand. Il tisse un énorme tapis. Il sait parfaitement ce qu'il fait et on comprendra ses dessins complexes seulement quand il aura terminé. Dieu a toujours le regard sur le salut de son peuple. Nous avons tendance à voir à travers d'un microscope. Et on accuse Dieu, nous accusons Dieu. Nous avons tendance à voir à travers d'un microscope les actions de Dieu. Mais Dieu regarde à travers d'un télescope sur des choses qui sont lointaines, même s'il n'a pas besoin d'un télescope. La situation en Israël était sombre. La maison de Dieu était en ruine. Il y avait de la corruption spirituelle partout. Même dans la maison du souverain sacrificateur, ses fils étaient corrompus et il était coupable de grands péchés devant le Seigneur. Mais quand les leaders de la nation, quand ils sont corrompus, quand les leaders spirituels, quand ils sont corrompus, qu'est-ce qu'on peut espérer du peuple? Ne pensez-vous pas que l'Éternel a besoin d'un Samuel à cette époque pour parler aux enfants d'Israël? Plus que Anne, Dieu avait besoin d'un Samuel pour parler aux enfants d'Israël, pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu, pour remplacer Élie et ses fils. Dieu, bien sûr, il avait besoin de Samuel. Le Seigneur ne comprend-il pas l'urgence de la situation? Ne regarde-t-il pas les larmes de Anne? Vous savez, nous les hommes, nous attendons que Dieu agisse avec le montre dans nos mains. Mais le Seigneur agit dans le cadran de l'éternité. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, dit Jérémie dans sa Lamentation 3, 25, 26. Mais quand nous attendons avec les mains croisées, mais souvent nous disons des choses inutiles et pas très sages. Mais ici il dit que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce qui était le cas de cette femme, Anne. L'Éternel lui-même a attendu pendant de longues années pour donner un fils à Abraham et Sarah. Mais souvent nous pensons à Abraham et Sarah qui attendaient très très longtemps pour avoir un fils, le fils promis. Mais l'Éternel lui-même a attendu plus que Abraham et Sarah qui avaient attendu pour Isaac dans leur vieillesse. Parce que Dieu sait à quel moment il faut donner un fils pour Abraham et Sarah. La parole nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait du commencement, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3, 11. Nous pouvons toujours nous demander pourquoi Dieu avait attendu autant d'années pour accorder le salut à l'homme par Jésus-Christ sur la croix depuis la chute de l'homme. Combien de siècles Dieu l'a attendu? La Bible nous répond, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Au temps marqué est mort pour des impies. Oui, l'Éternel avait rendu Anne stérile pour sa propre gloire, puisque la gloire et bonté de Dieu soient manifestées dans la vie d'Anne et dans la nation d'Israël. Et deuxièmement, nous voyons que Anne était une femme de la foi et de prière. Le chagrin du cœur était inconsolable. Son chagrin était plus grand que l'amour de son mari, Elkana, et la double portion qu'elle recevait de son mari. Probablement, elle souffrait dans la société à cause de sa situation. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel avait rendu amer. Vous savez, quand on souffre déjà, il y a des gens qui viennent envers nous, ils lancent les pics. Ils nous font souffrir encore. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. Le silence de Anne devant cette situation était remarquable. Elle ne répondait jamais à Peninnah ni aux autres. Elle avait mis sa confiance en l'Éternel. Cela nous fait penser à d'autres qui n'ont pas répondu aux remarques ou aux accusations des hommes. Quand Marthe s'est plainte à Jésus de sa sœur Marie, Marie n'a pas répondu. Elle a laissé Jésus répondre. Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ça, c'était le dernier mot de Jésus pour Marthe. Une autre femme qui a oint le pied de Jésus et accusée de gaspiller le parfum dont la valeur aurait pu être distribuée aux pauvres. La pauvre dame n'a jamais répondu à l'accusation. Il y avait plein de personnes qui regardaient cette femme avec un regard bizarre, avec des paroles d'accusation. Mais Jésus s'est levé pour elle et a répondu, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Vous voyez comment, si on laisse Dieu répondre pour nous, et on pense qu'on peut répondre avec des mots corrects, mais bien souvent nous nous trompons. Quand nous laissons Dieu répondre pour nous, il fera, même sans les mots. Le monde n'a jamais été gentil envers les femmes. Nous voyons que Anne n'a jamais défendu sa cause devant les hommes. Mais elle priait. Elle versa ses larmes dans ses prières devant Dieu. Dieu entend chaque prière chuchotée dans le secret de nos cœurs. Il se souvient de chaque goutte de larmes qui coule de nos yeux. Écoutez ce que le psalmiste dit. Tu recueillis mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tu recueillis mes larmes dans ton outre, dans une bouteille. Dans des autres traductions, c'est la bouteille, la version moderne. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Et troisièmement, nous voyons que Anne, elle souffrait seule. Et personne n'a pu comprendre son chagrin. Son mari Elkana l'aima et il la consola, mais il a quand même choisi de partager sa vie avec une autre femme. C'est une chose de dire des mots très gentils, mais faire les choses contraires. Il a quand même choisi de partager sa vie avec une autre femme. Et cette situation a seulement ajouté à son malheur. Même Élie, le souverain sacrificateur, a pensé qu'elle était ivre quand elle versait son âme devant l'Éternel. Regardons ensemble dans notre passage les versets 12 à 17. 1 Samuel chapitre 1, versets 12 à 17. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Parfois, il nous semble que personne ne nous comprend. où on est mal compris par les gens qui nous entourent. On peut avoir ce sentiment même quand on vient dans la maison d'Éternel, quand on peut être mal compris, où personne ne peut comprendre notre chagrin, notre douleur. Mais cette femme Anne, elle versa son âme devant l'Éternel. Anne était une femme qui priait. Et regardez le verset 10. Anne était une femme qui priait. Nous voyons qu'elle priait avec l'amertume dans l'âme. Anne, elle priait avec l'amertume dans l'âme. Et le mot amertume, c'est le même mot, c'est traduit comme le même mot comme Mara. Quand les enfants d'Israël ils se trouvaient dans une source, dans le désert, l'eau était amère. Et l'eau, cette source, elle était appelée Mara. Donc, c'est le même mot. Elle priait avec l'amertume dans l'âme. Mais si nous devrions poser cette question pour nous-mêmes, quand nous sommes amers, quand nous sommes tristes, est-ce que nous sommes poussés à prier ou nous commençons à lamenter, murmurer ou cherchons à être consolés par des autres, par les hommes? Mais Anne, elle priait avec l'amertume dans l'âme. Elle versa des pleurs, dans ce même verset, elle versa des pleurs. Donc, elle n'a pas pleuré devant les autres, mais chaque année, elle était au temple avec sa famille. Ça devrait être un moment très douloureux pour elle, car chacun a eu une part après le sacrifice. Et quand sa rivale, Pénina, a pu monter au temple avec tous ses enfants, elle aurait dû sentir très seule. Mais nous voyons qu'elle priait avec l'amertume dans l'âme, elle versa des pleurs. Et un autre aspect, nous voyons ici, dans le verset 11, elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc, Anne, on disait qu'elle était une femme de prière, mais dans sa prière, elle fait un vœu. Elle fait une promesse à Dieu. Mais bien souvent, notre prière, quand nous approchons Dieu, nous vient avec nos requêtes. Si tu... On vient avec une tendance en train de dire « donne-moi, donne-moi ». Mais si nous allons réfléchir de ce que nous avons prié, mais il y a beaucoup de bénédictions, on demande beaucoup de bénédictions. Mais Anne, la parole nous dit qu'elle a fait un vœu. Et elle dit « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante », nous devrions remarquer sa humilité ici. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est le vœu de Nazaréen. C'est pareil comme Jean-Baptiste ou comme pour la parente de Samson. Ils sont faits. Et nous voyons aussi que dans le verset 12, elle persistait dans la prière tous les jours, année après année. La Bible ne nous dit pas combien d'années elle n'avait pas des enfants, depuis combien d'années elle était mariée. Nous ne connaissons pas grand-chose. Mais quand nous voyons qu'elle était amère dans la vie, on peut deviner qu'elle était stérile pendant des longues années. Et donc... elle persistait dans la prière tous les jours. Quand on ne reçoit pas ce que nous demandons à Dieu, et on persiste. Et on peut uniquement persister dans notre prière quand nous espérons, quand nous avons l'espoir que Dieu va nous répondre un jour. C'est seulement quand nous avons cette espérance, on peut persister dans la prière. Et c'était, elle persistait dans la prière tous les jours. Et chaque fois qu'elle entendait la moquerie de sa rivale, elle priait. Et chaque année, même si elle devrait partir avec toute sa famille, elle priait. Et nous voyons aussi que Anne priait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Mais aujourd'hui, il y a la prière publique et la prière privée, mais Anne, elle priait dans le temple, mais on ne sait pas, il y a combien de personnes qui ont regardé, mais on est dit que c'est seulement Élie qui a regardé Anne prier. Mais ce que nous remarquons ici, Anne priait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Sa prière, elle venait de son cœur. Elle priait avec son cœur. Mais on n'entendait pas sa voix. Mais parfois, notre prière peut être très belle, dépend de nombre de personnes qui peuvent nous écouter, qui peuvent nous regarder. Mais Anne, elle versa son âme devant l'Éternel. Elle répandit son âme devant l'Éternel. Regardez les versets 15 et 16. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle priait avec la foi en Dieu. Cinquièmement, nous voyons que Anne demanda à Dieu un fils pour lui rendre à son tour. C'est quand même une requête qui est un peu étrange. Et nous devrions nous demander combien de fois nous demandons des choses pour nous, pour garder pour nous, pour nous demandons les choses uniquement pour nous, avec un certain degré de égoïsme. Souvent, nous demandons pour nous. Mais Anne demanda à Dieu un fils pour lui rendre à son tour. C'était pour cet enfant, regardez le verset 27 à 28, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et se prosterner là devant l'Éternel. C'est une prière, une femme merveilleuse. Mais quand, vous savez, quand Anne fit ce vœu, personne ne savait qu'elle avait prié une telle prière. Même pas le souverain sacrificateur Élie. Il n'a même pas entendu son prière. Mais elle dit à Dieu, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Quel sacrifice! Est-ce que nous avons ce sentiment de sacrifice quand nous approchons Dieu? Est-ce que nous avons cette idée à sacrifier Dieu, ce que lui il peut nous rendre, ce qu'il peut nous donner? Quand nous, bien sûr, nous prions avec ce sentiment que Dieu va certainement exaucer notre prière. Mais est-ce que vous êtes prêt à rendre à Dieu ce que Dieu il peut vous donner? Vous voulez garder pour vous? Je pense que sincèrement, nous devrions sonder nos cœurs et poser ces questions quand nous prions, avec quel sentiment nous approchons Dieu. Est-ce que nous demandons des choses pour nous seuls ou nous demandons Dieu pour sa gloire, pour son service, pour mettre ces choses en son service. Comment nous demandons? Et la fin de verset 28 dit qu'ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous savez, quand l'âne ramène Samuel, amène Samuel pour la première fois, après qu'il était sévré, il avait peut-être 3, 4 ou 5 ans. C'était un jeune enfant. Et qui a appris Samuel à adorer Dieu dans son temple? Ici, nous voyons qu'il se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, Anne, elle n'était pas seulement la mère biologique de Samuel, elle était aussi la mère qui a élevé ce jeune enfant Samuel. Elle s'est souvenue de vœux qu'elle avait fait devant Dieu. Bien souvent, nous prions, nous recevons, après nous oublions ce que nous avons dit à Dieu, ce que nous avons dit dans notre prière. Personne ne savait ce qu'elle avait résolu dans son cœur, pas même le vieil Élie. Mais pourtant, elle a accompli son vœu avec fidélité. Nous voyons combien elle était fidèle dans tout ce qu'elle disait à Dieu. Bien souvent, nous chantons que nous louons Dieu pour sa fidélité. Et quelle est notre part? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Elle a tenu sa promesse. Elle donna à Dieu le plus précieux qu'elle avait. Elle donna à Dieu le plus précieux qu'elle avait dans le monde, sans regret et avec joie. Et Anne, jusqu'à maintenant, elle sentait seule, parce que personne n'a compris sa situation. Elle sentait seule. Et maintenant, tout ce qu'elle avait, Elkanah, si ce n'était pas Anne, il avait Penina. Penina, elle avait son mari. Les enfants de Penina, ils avaient leurs parents. Mais Anne, elle n'avait que Samuel. Donc, elle donna à Dieu le plus précieux de qu'elle avait dans le monde sans regret et avec joie. Ça nous fait rappeler ce que notre Dieu a fait pour nous. Il avait le plus précieux, son Fils unique, il a donné pour nous. Et sans regret, et avec joie. Même s'il savait qu'il devrait mourir sur la croix comme un pécheur pour l'humanité. Mais Dieu l'avait donné, le plus précieux qu'il avait, il l'a donné pour nous. Elle espérait dans le salut de l'Éternel. Regardez le verset 10 de chapitre 2. Le verset 10 de chapitre 2. Nous voyons qu'elle espérait dans le salut de l'Éternel. L'Éternel jugera l'extrémité de la terre. C'est le cantique, le beau cantique qu'elle chante. Mais je trouvais que plusieurs femmes, elles chantaient des cantiques quand elles ont reçu la faveur de Dieu. Marie, elle a chanté sa cantique. Et Myriam, la sœur de Moïse, elle a chanté le cantique. Et ici, nous voyons que Anne, elle chante un cantique. Elle dit, l'Éternel jugera l'extrémité de la terre. Il donnera la puissance à son roi. On peut deviner à qui elle pense. Il relèvera la force de son vin. Il relèvera la force de son vin. Elle voyait beaucoup plus loin. Elle voyait le salut d'Israël. Homme ou femme, les serviteurs de Dieu, ceux qui espèrent en Dieu ne sont pas épargnés des épreuves. On peut être homme ou femme. Ceux qui espèrent en Dieu ne sont pas épargnés des épreuves. Juste parce que nous pensons que nous sommes bien, nous sommes en train d'obéir le commandement de Dieu, et nous sommes des hommes et des femmes de foi, on ne peut pas espérer que nous serons épargnés des épreuves. Regardez ce que Jacques dit, mais je vais lire pour vous. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Mais quand Anne, elle a rendu Samuel à Dieu. Quand Anne elle a rendu la bénédiction qu'elle a reçue de Dieu, elle est devenue une femme complète. Nous savons qu'elle a eu des autres enfants après. Mais la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est que nous soyons complètes. Mais sans les épreuves, on ne peut pas être complète. Anne est une femme à imiter pour sa fidélité. Nous devrions l'imiter pour sa vie de prière, son caractère, son intégrité et pour sa foi en Dieu. Quel bel caractère a cette Anne. Une mère est née seulement par sa capacité biologique à devenir une mère. Il y a beaucoup de femmes qui, dans ce monde, elles peuvent devenir mères. Il y a des jeunes filles, sans même comprendre, elles deviennent mères. Nous vivons dans un temps où nous pouvons trouver une mère porteuse pour l'argent. On paye quelqu'un et quelqu'un peut devenir mère pour votre enfant. Ça, c'est l'époque où nous vivons. Il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Dieu cherche des mères qui peuvent élever des enfants spirituels dans son église. Dieu cherche des mères qui peuvent élever des enfants spirituels dans son église. Une mère biologique ou pas, soyons comme Eunice, qui avait une énorme influence dans la vie de jeune Timothée. À Dieu soit la gloire. Amen.